C'est une joie pour moi de présenter Claude et Julia. En plus d'avoir la chance que ce soient mes beaux-parents, ce sont des orateurs, des prédicateurs qui ont béni l'Église partout dans la francophonie. Ils ont prêché dans leur maison ce qu'ils ont, ils ont vécu pardon, dans leur maison ce qu'ils ont prêché aux nations. Ils ont été partout et moi je suis toujours admiratif de voir que cette application du passage veut dire que les jeunes hommes et les jeunes femmes se lassent bel et bien, mais ceux qui renouvellent leur force en l'Éternel s'envolent comme les aigles. Et c'est à ça que je pense quand je les vois, parce qu'ils ont 72 ans, c'est ça ? 71-40 dans la tête, et ils vont crapahuter dans les mangroves au Madagascar. J'ai vu ma belle-mère me montrer des fois, ils viennent à la maison, ils nous montrent des vidéos, ils sont là dans une pirogue à Madagascar, où ils vont marcher pendant des heures, implanter des églises. Je dis, mais comment ils font? Je suis fatigué juste de les voir à l'écran, et c'est fou, ils ont une onction, ils ont une faveur de Dieu. Du coup, ils communique quelque chose de la part de Dieu, c'est toujours une joie en plus de les recevoir chez nous à la maison, mais on veut vous les partager, on veut les profiter pour l'Église Connect Grenoble. Est-ce qu'on peut les applaudir, Claude et Julia Payan? Merci.
Alors, un message aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est le message.
Oui, non, mais
qu'on
il y en
décidé.
Avait trois là. Oui, hein, non, mais ce matin, tu n'arrivais pas à décider
quatre,
lequel.
D'accord, mais je ne sais pas lequel, tu vois. J'en fais un avec les quatre.
Alors, je te suis.
C'est un exercice
allez.
Périlleux.
Oui, hein, c'est, tu veilles sur moi. Enfin, il dit alors, c'est là, ça. Allez, je prends les trois et on verra.
Oui, on n'a pas le temps de partager avec vous tout ce qu'on aimerait partager. Il y a tellement de choses qui sont sur notre cœur, mais c'est pour ça que vous pouvez retrouver les livres à la sortie. OK? J'aime beaucoup lire les épîtres de Paul, j'aime beaucoup voir ce qu'il dit pour bâtir l'Église, mais régulièrement le Saint-Esprit me dit « reviens aux évangiles ». Revient aux éléments de base, parce que c'est facile d'essayer de construire l'Église de Jésus-Christ et oublier les éléments qui sont supposés être notre fondement pour pouvoir bâtir à partir de là. Il faut revenir souvent à la lecture des évangiles et aux paroles de Jésus qui sont des fondements. Et dernièrement, dans Luc, par exemple, au chapitre 6, je trouvais ces paroles qu'on connaît tous, mais qu'il faut vraiment se remémorer régulièrement, ces principes simples qu'a donné Jésus pour gérer notre vie et notre relation avec les autres. Alors, vous connaissez tous ces passages, mais il nous est dit d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous haïssent. Mais c'est facile d'oublier tout ça. En essayant d'être super spirituel, je me suis rendu compte que parfois, on essaie de devenir des experts en intercession, des experts en délivrance, mais on a oublié les fondements de l'Écriture. Parfois, on voit des chrétiens, ils se haïssent entre eux. Donc déjà, ils se haïssent entre eux. Comment ils vont faire pour aimer leurs ennemis? Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle reconnaissance méritez-vous? Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez seulement recevoir, quelle reconnaissance méritez-vous? Oui, à partir de là, je me suis dit, à une époque de ma vie, on s'est dit avec Julia, on ne veut pas finir comme des vieux pasteurs aigris qui en veulent à tous les gens qui les ont
des
blessés.
Des vieux croutons, hein, c'est ça.
C'est une manière de voir les choses. Non, alors on a fait une liste de tous les gens qui nous avaient blessés, on a décidé de les bénir. Alléluia. Je me rappelle un couple pastoral qui fonctionnait avec nous et ils n'ont pas été justes, ok? Bon, nous, on n'a pas été malins et très sages non plus avec le temps. Mais quand on a reconnecté, je ne leur ai pas dit oh, « c'est bien ce que vous avez fait, on est d'accord ». Non, on n'était toujours pas d'accord. Mais j'ai décidé de soutenir leur ministère pendant 2 ans, leur envoyant de l'argent tous les mois. Et j'ai brisé le pouvoir de Satan sur ma vie. Alléluia. Et ce qui se passe quand vous faites ce genre de démarche, c'est agréable au Seigneur. Qui veut être agréable au Seigneur? Et ensuite, vous devenez immaudissable. Vous voyez ce que je veux dire par immaudissable? C'est-à-dire le diable, quand il veut passer là pour vous frapper, il ne trouve plus de prise. Pour vous réclamer, la Bible nous dit que le diable, il essaie de nous réclamer. Pour nous réclamer, il faut qu'il trouve une prise, quoi. Il ne trouve pas de prise. Claude Payan, tu as vu, il s'est laissé aller à l'amertume. Il a développé toute cette méchanceté, finalement. On y reviendra. vis-à-vis de ceux qui l'ont blessé. Il se croyait justifié parce qu'il a été blessé. Et Dieu répond, non, non, tu as vu là ? Il a soutenu ces gens pendant 2 ans. Il est allé dans le sens contraire dans lequel sa chair voulait aller. Wow, vous voulez devenir immaudissable ? Mais il y a un prix à payer. Hein ? Vous ne pouvez pas écouter le vieil homme. Hein ? C'est comme pour réussir un couple. Il ne faut pas que ce soit un vieil homme avec une vieille femme. Et ce n'est pas une question d'âge. Mais il y a des tas de chrétiens, ils sont nés de nouveau, ils sont sauvés, mais ils ont gardé une mentalité de vieil homme et de vieille femme. Dans le vieil homme, c'est un ronchon, la vieille femme, c'est une chippie. Vous mettez un ronchon avec une chippie, qu'est-ce que ça donne ?
Ça marche pas.
Sauvé ou pas sauvé, il va y avoir des étincelles. Hein ? Il faut un homme nouveau avec une mentalité nouvelle qui nous permet d'acquérir la parole de Dieu.
C'est tellement difficile de changer nos habitudes. C'est difficile de changer autant plus les habitudes qu'on a prises depuis qu'on était jeune ou dans un contexte où on a grandi. Parce que c'est quand, dans la petite enfance que souvent on apprend des habitudes, des réactions ou de la façon de faire. On voit comment maman, papa fait des choses et ensuite, hop, on a mal à décoller ces réactions-là en étant adulte. Hein? Mais le Seigneur, il nous dit qu'il est capable de changer nous, chacun de nous, de l'intérieur vers l'extérieur. Il pourrait changer l'extérieur et ensuite aller vers l'intérieur, mais il a décidé d'y aller au cœur d'abord et ensuite de soigner ce qui ne va pas pour pouvoir changer certaines habitudes et instaurer d'autres habitudes que normalement on va pouvoir les entretenir pendant longtemps. Mais on dit qu'on ne peut pas changer notre régime, il faut plusieurs semaines avant qu'on s'habitue. Mais l'ancien régime, il était quand même bien. Hein? Mais si on s'accroche à Dieu, Dieu est capable de vraiment changer la mentalité. En Éphésiens, qu'est-ce qu'il dit ? Il a dit, et d'être renouvelé dans l'être intérieur, par son esprit, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Si on veut que Christ habite ici, à l'intérieur d'abord, eh bien, il faut qu'on accepte qu'on soit renouvelé et changé. Je ne connais aucune méthode terrestre qui peut changer l'être humain comme le Saint-Esprit peut nous changer. J'ai vu des gens méchants, j'ai vu des gens violents, j'ai vu des gens addicts des tas de choses qui sont devenus d'autres personnes, tout en étant eux-mêmes. C'est vraiment étrange. Ils n'ont pas perdu la personnalité qui vient de Dieu le Père. Ils n'ont pas perdu ces petites choses qui font « Ah, ça c'est eux, ça c'est leur façon », mais des bonnes choses. Parce que Dieu ne veut pas qu'on jette tout. Mais qu'on fait un tri entre ce qui est favorable, agréable à Dieu, et ce qui est qui ne plaise pas à Dieu, et qui n'est vraiment pas nécessaire qu'on les garde. En plus, il ne nous demande pas de rejeter ce qui est bon. Il nous demande simplement de s'en débarrasser comme des choses qui sont comme des parasites, et qu'en finalement, on peut bien vivre encore mieux si on ne l'avait pas. Donc, il faut laisser Dieu, laisser le Saint-Esprit faire ce travail. Depuis, là aussi, on peut commencer le plus jeune âge, c'est encore plus facile. Et petit à petit, on arrive à pardonner, on arrive à lâcher. Et je crois que, et souvent je dis, mais je répète, c'est que ce n'est pas quand j'ai acquis certaines choses, certaines connaissances de Dieu que j'ai réussi à changer. C'était les moments où je lâchais des choses. C'était des moments où il avait une lâcher-prise où j'ai dit, OK, ça, c'est fini. Je pose ça et je ne retourne pas parce que ça n'a pas été favorable dans ma marche pour être agréable à Dieu. Mmh. Revenez à Dieu, le Seigneur, il nous appelle constamment. Mmh.
La repentance signifie d'ailleurs changer de mentalité.
Changer de
c'est
mentalité.
Parce qu'on change de mentalité, après qu'on, change,
disquette.
Qu'on change de comportement. Ouais. Et dans chaque fois qu'on... On entend la parole de Dieu qui est prêchée, mais c'est important de la mettre en pratique de suite. Donc, s'il y a quelques personnes ici, vous avez du mal avec quelques personnes, justement, eh bien, sortez de ce lieu et demandez au Seigneur qu'est-ce que vous pouvez faire pour les bénir. Tu sais, quand tu envoies un chèque à un gars qui te déteste, après, il va avoir du mal à continuer à te détester. Hein? Tu vois? Donc, Rentrer dans les travaux pratiques, on est d'accord ? Qui est d'accord pour rentrer dans les travaux pratiques ? Vous calculez, vous dites, bon, sur ce plan-là, peut-être que j'ai raison, mais ça ne me justifie pas par rapport à la parole de Dieu qui me dit, non pas de rendre le mal pour le mal, mais de rendre le bien pour le mal. Alléluia ! Alors, ça ne veut pas dire que les comptes ne seront pas réglés s'il y a des comptes qui doivent être réglés. Mais Dieu ne m'a pas donné l'autorité pour les régler. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et c'est terrible de tomber entre les mains de Dieu. Donc, ne vous inquiétez pas. Si des choses doivent être remises d'équerre, comme on dit, elles seront remises d'équerre. Mais ce n'est pas votre boulot. Amen. Et parfois, donc, nous pouvons tomber dans le piège d'essayer d'être tellement spirituel que nous cherchons à avoir des victoires à travers des méthodes toujours plus compliquées les unes que les autres, en oubliant les choses simples, basiques, les éléments prioritaires que le Seigneur nous demande de développer dans sa parole. Et c'est un peu ce qui s'est passé, on le voit dans le chapitre 58 d'Ésaïe, où il est question du jeûne auquel le Seigneur prend plaisir, vous savez. Et on a les Hébreux qui jeûnent, et il semble que le Seigneur n'est pas content avec leur jeûne pourtant. Pourtant, ils se privent, ils ne mangent pas, ils font des efforts, et ils disent au Seigneur, mais tu ne vois pas qu'on jeûne ? Je paraphrase. On fait ceci, on fait cela, il semble que tu n'y prends point garde. Et le Seigneur se permet alors de leur expliquer ce que représente pour lui normalement le jeûne, c'est-à-dire une période où on cherche à être plus près de son cœur. On lit cela dans le chapitre 58 d'Ésaïe, au verset 6, Dieu dit, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté. » Et on pourrait appeler ce message, « Détacher les chaînes de la méchanceté. » Moi, je connais des tas de chrétiens, même de pasteurs, qui recherchent toujours toutes sortes de méthodes pour délivrer les gens, pour les amener à la guérison, mais qui, dans leur vie personnelle, n'ont pas détaché les chaînes de la méchanceté vis-à-vis de leur épouse, vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de leurs parents, vis-à-vis des frères et sœurs dans l'Église.
Mais c'est intéressant parce qu'il dit « le jeûne où je prends plaisir », dit l'Éternel. Et un jeûne, c'est de se priver de quelque chose, hein, de nourriture ou voilà, je jeûne de ma musique préférée, je sais pas, mais de jeûner, c'est un effort, ça fait, il faut s'appliquer, il faut que ça nous coûte quelque chose. Mais toutes les jeûnes que les Hébreux ils faisaient, pourquoi Dieu n'a pas pris plaisir? Parce que ce qu'il voulait surtout, c'est qu'ils faisaient, ils mettaient leur effort, leur ça coûte, en fait, de se débarrasser de la méchanceté. Parce que de vouloir à quelqu'un, il y a un petit plaisir de vengeance parfois. Il y a un petit arrière-goût de pouvoir régler les problèmes nous-mêmes. Et Dieu il dit, lâche ce plaisir, laisse-moi gérer les choses et appliquez-vous de vous jeûner de votre côté néfaste.
Jeûner de votre sale caractère, c'est plus important que de ne pas manger. Mais quand on jeûne en ne mangeant pas, l'idée c'est qu'on soit plus concentré justement pour se débarrasser. Vous voyez ? Alors ce qui s'est passé, et ça a dû vous arriver, vous savez, les Hébreux, le jour où ils jeûnaient, ils étaient de plus mauvaise humeur que quand ils ne jeûnaient pas. Et ça vous est jamais arrivé ? Vous jeûnez et dès que votre femme vous parle, « Ça suffit, chérie !»« Ah ben mange alors !» Vous comprenez, l'idée, ce n'est pas de ne pas manger, juste. L'idée, c'est de permettre au Saint-Esprit de nous rendre meilleurs. L'idée de venir à cette réunion ce matin, ce n'est pas de dire, ouais, on a chanté des beaux chants, on a eu un message, c'est de ressortir meilleur. Qui va ressortir meilleur, là ? Moi, je vais ressortir meilleur mari, tiens.
Ah, ouais, super.
Souvent, ma femme me rappelle ce que j'ai prêché. Tu te rappelles ce que tu as prêché l'autre jour ? J'ai encore plus de responsabilités que vous de mettre en pratique ce que je prêche ce matin. Parce que la Bible dit, nous serons jugés plus sévèrement. Alors, des fois, je rentre à la maison, je me dis, j'aurais mieux fait de ne pas dire ça, quoi.
Ah, en plus, il y a des témoins.
et c'est ce que le Seigneur leur dit, vous jeûnez pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue. Vous jeûnez pour disputer, pour vous quereller. Ouh! Parfois dans les couples, les gens se querellent, ils posent toutes sortes de liens l'un sur l'autre. des liens de méchanceté. Et puis on vient à l'église et puis on croit que tout va se régler tout seul et qu'on va être exaucé par le Seigneur. La méchanceté consiste toujours à servir les autres d'ailleurs. C'est pour ça que je disais, je vois beaucoup de gens parfois qui vivent dans la compétition, l'envie, la comparaison. Ils sont toujours prêts à servir les autres et ça produit l'abus spirituel. On est là pour vous rendre meilleur et que vous ressortiez allégé ce matin, pas pour que vous ressortiez plus chargé. On est d'accord ? Parce qu'on rencontre régulièrement dans nos voyages des gens qui ont vécu l'abus spirituel. Parfois, on l'a fait vivre à d'autres personnes quand on était trop immature encore pour comprendre en quoi consistait notre ministère. Et on se rend compte que les gens qui ont subi l'abus spirituel, eh bien, ils ont les mêmes symptômes que les gens qui ont été abusés sexuellement. Waouh ! Et d'ailleurs, vous verrez que lorsque la Bible parle au niveau spirituel, des égarements au niveau spirituel, elle parle d'adultère. Elle relie le côté spirituel qui consiste à servir d'autres dieux, par exemple, à une sexualité spirituelle. Et c'est pour ça que les gens qui ont subi l'abus spirituel, ils se sentent souillés, ils ont l'impression qu'on a profité d'eux. L'abus spirituel, c'est quand une personne qui est en place d'autorité ou qui est convertie avant toi utilise sa position pour profiter de toi, pour te manipuler, pour te contrôler. Or, le contrôle et la manipulation, même si on l'a fait au nom de Jésus, c'est de la sorcellerie. Le principe de sorcellerie, vous savez ce que c'est ? Ça ne commence pas en prenant une poupée, en plantant des aiguilles dedans. C'est ça, entre autres. Mais ça consiste à pousser ou chercher à pousser quelqu'un à faire ce qu'il ne ferait pas de par sa propre autorité s'il était en pleine possession de ses moyens. Donc on va le mettre dans une position où il va perdre ses moyens. C'est pour ça que le diable il fait boire les gens, il les fait se droguer pour qu'ils ne soient plus en état de pouvoir choisir par eux-mêmes, d'utiliser leur libre arbitre. Mais on peut faire ça avec des versets bibliques. Des versets bibliques sortis de contexte. Il me dit, club païen, vous exagérez. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le diable, pour tenter Jésus, quand il est venu le tenter dans le désert ? Alors moi, je l'ai dit souvent avec humour, il n'a pas utilisé le manuel du parfait petit sataniste. Hein ? Pourtant, il en a des bouquins, le diable, vous êtes d'accord avec moi ? Des bouquins de sorcellerie. Alors il va livrer le plus grand combat de sa carrière, mettez-vous à sa place, pas trop longtemps. Il va dans sa bibliothèque, il se dit, il me faut un bouquet là, une sorcellerie, je peux jeter un sort là qui va marcher. Et il prend aucun de ses bouquins à lui, il prend notre bouquet à nous, la Bible, et il utilise des versets bibliques. Alors je ne sais pas si vous mesurez l'enseignement qu'on peut tirer de là, on peut être choqué, mais c'est clair et net dans la Bible que c'est comme ça, c'est qu'il y a plus de pouvoir dans des versets bibliques, plus des pouvoirs de sorcellerie dans des versets bibliques sortis de contexte que dans des livres de sorcellerie. Et s'il a fait avec Jésus, tu crois qu'il va se gêner avec toi ? C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on soit influençable. La Bible dit « examinez toutes choses ». Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Dites pas « Amen » au dernier gars qui débarque en vous disant « Dieu m'a dit, Dieu m'a montré ». Attention, mais les « Dieu m'a dit, Dieu m'a montré ». Vous savez, si je veux faire taire ma femme, je lui dis « Dieu m'a dit hein ». Ah. Chérie, Dieu m'a dit. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas entendre Dieu nous parler. Bien sûr que moi, je crois qu'il faut entendre Dieu nous parler tous les jours. Mais attention, comment nous utilisons ce qu'il nous dit ou ce qu'on pense parfois qu'il nous a dit. Ben, tu m'as dit que Dieu t'a montré ça, ok. Ben, on va analyser. Hein. On va voir déjà si on le ressent. Alléluia.
Ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse avancer dans la connaissance de sa personne. Mais quand on dit la connaissance de sa personne, la personne du Christ, c'est aussi la personne de nous-mêmes. Qu'est-ce que je pense vraiment ? Est-ce que j'en veux vraiment à un tel point certaines personnes ? Est-ce que je vais me positionner aussi sous un joug de quelqu'un d'autre ? Très souvent, il y a des personnes qui, ça les arrange en fait, parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir une opinion. Ils ont envie d'être dans un endroit ou dans une église où on n'a pas de décision à prendre. c'est les autres qui prennent les décisions. Moi, je ne fais que suivre et j'ai un sentiment d'être juste. Mais en fait, je suis juste quelqu'un qui suit sans se positionner. Mais l'ennemi connaît notre adresse et qu'il peut toujours nous confronter individuellement. C'est pourquoi que la parole de Dieu, l'amour de Dieu, notre identité en Christ a besoin d'être vraiment solide pour qu'on peut choisir nous-mêmes qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Parfois, les gens ils disent, ah, tu ne peux pas prier à Dieu pour moi parce que lui, il ne me parle pas, moi. Mais il te parle, donc prie pour moi. Je dis, mais non, il n'y a pas de raison. On a tous accès au trône de Père. On a tous cette capacité d'être rendu intelligent par l'Esprit de Dieu. Donc, on ne peut pas se dire, ah non, mais moi, je n'ai pas eu une éducation. On n'a pas besoin d'une éducation pour connaître Dieu et pour être en paix avec lui. Ce qu'on a besoin, c'est de pouvoir choisir, décider et d'être sûr de notre identité en Christ. Et comme ça, quand on se trouve devant des personnes néfastes ou qui veulent nous manipuler ou qui veulent nous amener dans des doctrines qui ne sont pas des doctrines qui nous amènent vers une liberté, mais plutôt pour nous asservir, on va pouvoir dire, tiens, ça ne me semble pas juste. Pas, on m'a dit que, mais moi, je peux ressentir les choses, je peux analyser, je peux discerner. Le Saint-Esprit, il veut parler à travers chacun de nous et il nous donne cette capacité de devenir. La Bible dit que l'idiot dit à Dieu, voilà, viens à mon secours, il le rend intelligent. On n'est pas obligé, on n'est pas condamné d'être qui les autres ont dit qu'on était quand on était jeune, incapable, vous ne pouvez pas faire ça, ou ça c'est trop compliqué pour vous, ça c'est la théologie. Mais excusez-moi, mais j'ai l'Esprit de Dieu, de Christ, de ressuscité à l'intérieur de moi. Il me renouvelle chaque jour. Il me donne une intelligence et je peux choisir les personnes avec qui je vais travailler.
Entourez-vous de gens qui vous tirent vers le haut.
C'est ça. Ne vous entourez pas par des personnes qui vous abaissent.
C'est des gens de tiramisu, c'est ça?
Oui, c'est des tiramisu. Oui. Explique, vas-y. Tu...
Oui, non, bon, on disait hier que le mot tiramisu signifie tirer vers le haut. C'est la même définition que le mot exhorter. Celui qui prophétise,
c'est ça.
Exhorte. La Bible dit exhortez-vous les uns les autres. Donc, ça signifie tirez-vous vers le haut les uns les autres. Mmh. Et vous savez, les gens, ils sont.
Italien,
le diable essaie de les tirer vers le bas toute la semaine, sur leur lieu de travail, partout où ils se trouvent. S'ils viennent encore dans l'église et qu'ils se prennent une prophétie dans les dents, qu'ils ont besoin de 15 jours pour se remettre, ou un Dieu m'a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous comprenez? Ils viennent pour être tirés vers le haut ici. On veut se tirer vers le haut les uns les autres ici. On veut des chrétiens tiramisu.
C'est ça.
Ok.
Tiramisu.
Donc, c'est pour cela que les messages qu'on vous annonce, c'est ceux que le Seigneur a mis sur notre cœur pour notre propre transformation. Hein? On n'est pas là en train de vous regarder en disant pauvre,
vous avez besoin
de Dieu.
Nous-mêmes,
on se remet
Seigneur.
En question régulièrement. Le Seigneur me dit détache les chaînes de la méchanceté. Hein? Ça peut être vis-à-vis de notre conjoint, nos amis, nos enfants, je le disais tout à l'heure, mais se poser la question régulièrement. Est-ce qu'il y a des personnes peut-être dans mon entourage eh bien, qui sont sous mon joug? Je ne m'en suis pas rendu compte, mais j'ai besoin de détacher les chaînes de la méchanceté sur ces personnes. Et peut-être qu'il y a des gens, vous dites, ils ont mis des liens sur ma vie par la manipulation et j'ai besoin de me détacher de ces gens, ok? C'est-à-dire, je ne vais pas les laisser continuer à avoir un ascendant sur ma vie parce que je suis libéré par Jésus-Christ. Mais d'un autre côté, je ne vais pas rentrer dans un cycle d'amertume et de vengeance parce que je vais chercher à les bénir. Parce que je vaux plus que ça. Alléluia! Je vaux mieux que ça. Et puis, parce que la Bible le dit, Jésus l'a dit, et je veux marcher sur les traces du Sauveur qui, humilié, frappé, crucifié, a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je tiens à vous dire que dans l'Église de Jésus-Christ, il y a des tas de gens, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et on est tous passés par des périodes, quand on regarde en arrière, les vieux routards comme nous, hein, puisque tu as donné mon âge, on se dit « Mais dis donc, si c'était à refaire... » Je referai différemment. Pourquoi j'ai passé tant d'énergie à essayer de me justifier. Pourquoi j'ai dépendu tant que ça du regard des autres? Pourquoi? Mais qui est-ce qui a ces pourquoi là? Hein? Seigneur, eh bien, tirons l'enseignement du passé pour vivre un meilleur présent. Alléluia. Détachons les chaînes de la méchanceté. C'est pas si grave si les gens ne sont pas d'accord avec nous. C'est pas si grave s'ils ont dit du mal sur nous. Disons du bien sur eux. Alléluia. Mais vous imaginez la victoire, le diable là. Mais il perd toute sa contenance là. Ça fait des années qu'il travaille pour te faire tomber dans l'amertume. Il a choisi les pions qui allaient te faire péter un câble. Vous avez vu qu'il y a des gens, ils sont experts à appuyer sur les boutons sur lesquels il ne faut pas appuyer. Moi, j'avais une grand-mère comme ça. C'est la seule personne qui arrivait à me faire sortir de mes gants. Juste là où il ne faut pas appuyer. Tchaaaaah!
On croit qu'on est des gens gentils.
Eh bien, hein? Ma grand-mère mais m'a parfois, aidé à me sanctifier.
Hein? Oui, oui.
Il y a certaines personnes, parfois dans l'église, d'ailleurs, il faut aller les trouver en disant, « Frère, merci beaucoup, depuis que vous êtes dans l'église, j'avance dans la sanctification. » Vous ne pouvez pas imaginer, quoi. Et en conséquence de détacher les chaînes de la méchanceté, Paul, il le dit sous une autre forme, dans Colossiens, renoncer à toutes ces choses, la colère, l'animosité, la méchanceté, il est dit « alors ». Il n'est pas dit « parce que tu as la méthode parfaite de délivrance, ça y est, tu as compris quels sont tous les points parfaits pour de l'intercession, pour avoir des résultats. » Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Voilà. Et ta guérison germera promptement. Oui, on a eu des problèmes de santé cet été, mais on rebondit. Hein? Oh, on est là encore. Wouh! Ta justice marchera devant toi. Hey, tu n'as pas besoin d'essayer de te justifier sans arrêt. Mais non, j'ai pas fait ça. On a dit. Ça prend tellement d'énergie. Rien que d'essayer de se justifier. Vous savez, essayez déjà de répondre sur Facebook à un gars qui vous critique. Mais ça n'en finit plus après. Il y en a 10 qui vous tombent dessus. Et chaque fois que vous répondez pour essayer d'expliquer que ce n'est pas vraiment ça que vous avez voulu dire, mais ça n'en finit plus. Et laissez-les tranquilles. Et qui vous laisse tranquille? Ta justice marchera devant toi. C'est Dieu qui fera marcher ta justice devant toi. À un moment donné, il te rendra justice. C'est son affaire. On a autre chose à faire que de perdre de l'énergie à se justifier tout le temps. L'Éternel sera toujours ton guide. Waouh, vous allez ressortir ce matin avec une direction plus précise de ce que Dieu veut pour votre vie. Amen. Si vous le croyez, c'est ce qui se passera. Il rassasira ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres.
Ça m'arrangerait bien.
Allez, 40 ans dans la tête et je vais continuer à aller dans l'autre sens maintenant. La prochaine fois qu'on se voit, j'aurai 35 ans dans la tête.
Bon, je te suis, hein. On y va.
On t'appellera réparateur des brèches. Ah, il y en a, on les appelle fouteurs de pagaille. Il y a des ministères, oui, des chrétiens, vous les avez au milieu de vous, ils sont toujours là pour foutre de la pagaille. Toujours chercher le négatif, ce qui ne va pas. Mais toi, on veut t'appeler réparateur des brèches. Là, les gens, ils ont envie d'être dans ta présence parce qu'il y a toujours quelque chose qui va se réparer, qui va s'arranger. Tu auras toujours une parole pour eux, même quand ils sont abattus, pour qu'ils puissent être relevés. Il y a des gens, quand tu es abattu, il ne faut pas les rencontrer. Quand tu vas mal, il ne faut pas les rencontrer. Ils ont les versets bibliques, mais ce n'est pas les bons. On t'appellera celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Waouh ! Tu veux pas une renommée comme ça en tant que chrétien ? On dit, celui-là, il n'est plus dans notre église, mais pendant le temps qu'il était, qu'est-ce qui nous a fait du bien ? Waouh ! Il y a des gens, on dit, ah, il a quitté notre église, merci Seigneur.
Moi, j'aimerais juste ajouter, c'est que parfois, cette méchanceté, il ne se trouve pas par rapport à ce que nous, on ressent vis-à-vis des autres et ce que les autres ils nous ont fait, mais par rapport à ce qu'on croit de nous-mêmes. Et que parfois, les gens, ils ont dit, « Ah, mais tu es méchant, tu es une méchante petite fille. » Voilà. Et on grandit et on croit qu'en fait, au fond de nous, qu'on n'est pas gentil, qu'on est pourri et qu'on n'est pas bon, on n'a pas de valeur. Et cette méchanceté, il se retourne vers nous. Mais d'appartenir à Jésus, on peut discerner d'où viennent ces sentiments. Et parfois, ce n'est pas les autres qui sont méchants, c'est nous. Même si on croit, mais moi, je suis une gentille, moi. Moi, j'ai jamais, moi, je ne crie pas, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Mais ce n'est pas une question de ça. Cette méchanceté, c'est une arme que l'ennemi nous utilise contre nous, mais aussi au-dedans de nous. Donc, on a à le débarrasser totalement parce que Dieu, il nous appelle à être libres.
Oui, en fait,
la vraie liberté des enfants de Dieu. C'est ça.
Se défaire soi-même des chaînes de la méchanceté, de notre propre méchanceté.
C'est ça.
Parfois, on devient notre propre ennemi. On s'accuse continuellement. Hé, libère-toi. Sois ton meilleur ami.
On peut détester les autres, mais on peut détester aussi nous-mêmes. Arrête d'être méchant avec toi-même.
Sois ton prophète, sois ton propre prophète. Amen. Prophétise des bonnes choses sur toi.
Sois votre meilleur ami.
Je vais y arriver.
Amen.
Même si ma mère avait dit le contraire, Dieu, il dit autre chose. Mm. Ok.
Prophétisez sur
Détache
vous le matin.
Détache les chaînes de la méchanceté partout où elles sont.
Oui. Je suis pas mal quand même. Hein.
Ah ouais, tu es super. Ah, moi, ouais.
Et toi aussi.
Ah, hein, voilà.
Tu es comment?
Je me vois dans tes yeux. Donc, oh. Je me vois super. Oh. Quelle phrase. Ah là là, ce matin. Mais vous êtes bénis si vous avez autour de vous quelqu'un qui vous rappelle qui vous êtes en Jésus-Christ. Il y a tellement de gens qui veulent vous rappeler qui vous étiez. Entourez-vous de gens qui vous rappellent qui vous êtes devenu. Amen. Parce qu'on oublie souvent qui on est. Et quand on oublie qui on se comporte comme qui on n'est pas. Et parfois, ma femme me dit, hey, souviens-toi, tu es un vaillant guerrier. Ça, ce n'est pas digne de toi. Hein? Hein? Les chaussettes par terre là, qui traînent, ce n'est pas digne de toi.
Alléluia. C'est bien parce que parfois, le Seigneur nous permet de rencontrer quelqu'un qu'on n'a pas vu peut-être depuis 10, 20, 30, 40 ans et qui nous a connus quand on était avant. La vieille fille, qu'il disait. Et quand il vient, il disait, mais il parle à qui? C'est pas moi, c'est plus moi. Et ensuite, on essaie de, mais j'ai changé. Et eux, ils essaient de nous recaler. Ah non, mais ça, c'est pas toi. Je me rappelle, on faisait, on piquait des trucs dans les magasins, on faisait des choses. Non, mais cette personne, elle est morte. Elle est morte dans la baptême. Cette fille méchante qui critiquait les autres à l'école, elle est morte en Christ. Je suis renouvelée, je suis quelqu'un d'autre. J'ai changé. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi?
J'ai changé.
Et je ne retourne pas. Alléluia. Maintenant, il y a un avenir, une espérance pour nous. Le Seigneur m'a ouvert les yeux. Je vois, je reconnais de qui j'étais. Je garde une photo quelque part, mais ce n'est plus moi. Et donc, on peut dire à ces personnes-là, mais toi aussi, tu peux changer. Alléluia. Si moi, j'ai changé, maintenant, je ne t'en veux pas.
Amen.
Toi aussi, tu peux changer par la puissance qui agit à l'intérieur de nous.
Amen. Amen. Donc, chaque fois que la méchanceté elle veut remonter à la surface, il faut lui rappeler qui nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Ça, ce n'est pas digne de nous. De rendre le mal pour le mal, ce n'est pas digne de nous. De parler mal sur les gens, ce n'est pas digne de nous. De faire partie des chrétiens qui font le tour des autres et qui parlent là, sur le pasteur, ce n'est pas digne de nous. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la culture de l'honneur. Quand je suis devenu une nouvelle créature, je suis devenu quelqu'un qui a une nouvelle culture, une nouvelle forme de langage, une nouvelle forme d'action. Ça s'appelle l'honneur. Et il faut redécouvrir dans les milieux évangéliques l'honneur. Alléluia. Et un homme de Dieu, il a eu un accident. Un jour, je vais vous raconter cette histoire. Et alors qu'il perdait son sang, il est parti vers le Seigneur. Et il raconte qu'il s'est retrouvé à la porte du ciel et que là, il a assisté à l'entrée de tant d'autres personnes au ciel et que lui, il n'a pas pu rentrer. Je crois que Dieu voulait qu'il voie les choses qu'il a vues parce qu'après, lui, il est revenu sur terre. On a pas mal d'exemples comme ça de personnes qui ont fait cette sorte d'expérience. Et il a vu Jésus accueillir chacune de ces personnes-là qui entraient au ciel et leur poser une simple question. « Avez-vous appris à aimer ?» Waouh ! Et certains lui ont répondu « Oui, Seigneur !» Et ils sont rentrés au ciel avec leur récompense qui les attendait. Hein. Mais d'autres, ils ont répondu « Oui, dans certains domaines, mais pas dans d'autres !» Et ils sont rentrés aussi au ciel, hein. pour recevoir en fonction des domaines où ils avaient développé leur amour. La Bible dit que nous recevrons chacun selon nos œuvres. Donc ça veut dire qu'il y en a qui recevront plus et d'autres qui recevront moins. Maintenant, il n'y a pas de problème parce qu'au ciel, il n'y a pas de jalousie. Donc si quelqu'un reçoit plus que moi, je serai heureux pour lui. Amen. Vous imaginez si on amène le ciel dans l'église, déjà ça serait super. Il n'y aurait plus de problème de compétition, de jalousie au milieu de nous. On serait toujours heureux pour l'autre, même s'il a plus que nous. Ah, j'ai prié pour un mari, j'en ai pas un, mais elle, elle vient de se marier. Alléluia! Et ils sont entrés au ciel pour recevoir en fonction des domaines où ils avaient développé leur amour. D'autres encore ont répondu, nous avons gardé notre amour pour toi, mais nous nous sommes laissés aigrir après l'église, de l'amertume a grandi dans notre cœur vis-à-vis de certaines choses et de certaines personnes. Et le Seigneur a répondu à ces personnes, entrez aussi dans mon royaume. Ah, c'est difficile de perdre son salut en Jésus, hein? Amen.
Dieu, il est bon, hein, quand même, hein?
Entrez aussi dans mon royaume, car vous bénéficiez de ma grâce, seulement vous avez perdu votre récompense. Et c'est exactement ce qu'il dit Paul vis-à-vis de certaines personnes. Elles sont sauvées comme un tison arraché
du feu,
et elles perdent leur récompense. Mais il vaut mieux perdre sa récompense et rentrer au ciel que partir en enfer.
Ah, mais on est d'accord.
On est d'accord ?
On est tous.
Et je dirais, ben, il vaut mieux même pas avoir eu toutes les victoires qu'on aurait voulu avoir dans l'église, être dans un fauteuil roulant, malade, et partir au ciel qu'aller en bonne santé en enfer. On est d'accord ? Et Paul donc fait allusion à cette dernière catégorie de personnes. Mais c'est vrai qu'il y a une autre catégorie de personnes dont nous parle l'Écriture et qui rejoint ce que nous avons développé jusque-là. Mais il est question de serviteurs de Dieu puissamment oints par le Seigneur qui, au jour du jugement, diront à Jésus « N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles ?» Et nous, on est facilement impressionnés par les gens qui font des miracles. « Oh, ils prophétisent dans l'Église. Oh, qu'est-ce qu'il est spirituel !» Et Jésus leur répondra, « On ne se connaît pas. » Et là, dans le texte grec, le mot « se connaître », c'est le même qui est utilisé pour connaître sa femme. Ça signifie une relation proche, on n'a pas d'intimité. Waouh ! Vous utilisez le Saint-Esprit, vous utilisez l'appel que je vous ai donné, vous utilisez l'onction, mais on n'a pas de communication depuis un bon moment. Et cela, il ne rentre même pas au ciel. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ceux-là, peut-être, ils ont cherché à développer toutes les méthodes possibles pour libérer la puissance du Saint-Esprit. Et c'est vrai que parfois, selon les serviteurs de Dieu, c'est la compétition à celui qui fait tomber le plus de gens par terre. Et puis, pendant ce temps, ils n'ont pas détaché les chaînes de la méchanceté. Waouh ! Alors, absolument rien contre être charismatique, au contraire. Moi, je suis très charismatique, j'ai l'intention de l'être encore plus dans ces temps. Je prie en langue sans arrêt, et je vous encourage à aller dans ce sens. Mais si c'est au détriment des fondements, qu'est-ce qu'elle dit la Bible ? Je peux avoir toute la foi pour déplacer des montagnes, si je n'ai pas l'amour, niette ! Je ne suis rien. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens, surtout chez certains serviteurs de Dieu, qui pensent être quelque chose alors qu'ils sont rien. Et moi, je n'ai pas accepté Christ pour un jour qu'ils me disent « Hey, tu as bien frimé pendant ton temps sur terre avec l'appel que j'avais placé sur ta vie, mais honnêtement, ça ne vaut pas grand-chose. » Amen. Parce que tu n'as pas détaché les chaînes de la méchanceté dans ta relation avec ta femme. Tu n'as pas détaché les chaînes de la méchanceté dans ta relation avec les frères et sœurs. Tu n'as pas détaché les chaînes de la méchanceté vis-à-vis des gens qui t'ont blessé. Tout ce que tu as fait, c'est réagir comme le vieil homme, il avait toujours réagi. Donc on ne voit pas la différence. Mais je crois beaucoup à ce passage de Malachie qui dit que dans les temps dans lesquels nous entrons, et c'est ce qui se passe dans chaque temps de réveil, on verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Il y a quelque chose que le monde il a besoin de voir. Amen. Est-ce qu'on peut lever nos mains, Seigneur Jésus? Quand nous allons sortir de ce lieu chacun, on va se poser la question, est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un sur qui je fais peser un joug que je ne devrais pas faire peser, que je n'ai pas le droit de faire peser? Est-ce que peut-être je le fais peser sur ma propre personne? Eh bien, je vais affirmer ma vocation de libérateur. Ça peut être pour moi-même, alléluia. Wouhou ! Ça peut être pour mon conjoint, ça peut être pour mes enfants, pour mes parents, pour des frères et sœurs dans l'église, pour d'autres qui ne sont plus là. On va juste être un sujet de bénédiction. La Bible dit, ne maudissez pas, bénissez. Wouhou ! Et tout le reste, c'est les affaires de Papa Dieu. Il ne m'a jamais établi pour régler la justice ici-bas. Il m'a établi pour être un sujet de bénédiction. Alléluia. Dites-lui, Seigneur, je veux être un sujet de bénédiction. Je veux être un sujet de bénédiction. Je veux être un cadeau pour l'église dans laquelle je me trouve, un cadeau pour la famille dans laquelle tu m'as placé, un cadeau vis-à-vis des amis que j'ai, un cadeau sur mon lieu de travail. Alléluia. Laissez monter à la surface votre vocation de cadeau. Que vous sortiez de ce lieu avec une dimension supérieure. Et en conséquence de cela, vous allez bénéficier, et nous allons bénéficier de cette bénédiction qui est marquée dans Ésaïe. Alléluia. Alors ta justice marchera devant toi. Le Seigneur sera toujours là à tes côtés. Il te guidera. Ta guérison, ta délivrance germeront promptement. Pas besoin de 36 méthodes à en plus finir. Tu vas te lever un matin et ce problème, il aura disparu. Et tu diras, mais comment ça s'est passé? Et Dieu dira, tu as détaché les chaînes de la méchanceté et par répercussion, il y a des tas d'autres choses qui se sont débloquées. Par répercussion. Oh, peut-être j'ai besoin de revenir aux éléments, aux fondements. Alléluia. Peut-être dans mon désir de devenir tellement spirituel, j'en ai oublié les éléments de base. Alléluia. Faire aux autres ce que j'aimerais qu'on me fasse. Aimer mes ennemis. Et si je dois aimer mes ennemis, à plus forte raison mes frères et sœurs. Quoi qu'ils m'aient fait ou m'aient pas fait. Et je vais devenir immaudissable.